Vous écoutez À suivre sur Arte Radio.
Une porte qui grince. Une vieille radio qui grésille. Et non, ça, c'est la voix d'un bébé béluga qui appelle sa mère. Le béluga ressemble à un dauphin. À sa naissance, il est tout gris et devient blanc vers l'âge de 8 ans. Les premiers jours, son cri est faible, à peine audible.
Les animaux marins, ce sont des animaux qui vivent dans des milieux assez obscurs. La possibilité de se transmettre des informations par une autre modalité sensorielle que l'acoustique, elle est très réduite. On a des espèces qui doivent communiquer à de très grandes distances. Donc on a des animaux qui, sans les sons, ne peuvent pas survivre.
Estuaire du Saint-Laurent. Baigné dans le bruit des navires, les appels des bébés portent deux fois moins loin qu'en eau calme. En cas de séparation, les retrouvailles sont compromises, la survie du bébé aussi. Comment changer de regard ? Comment changer de regard, si ce n'est en allant rencontrer chez lui, celui que l'on veut comprendre ? Comment faire l'économie de l'immersion dans le monde de l'autre ? Car cette immersion permet de connaître. Bien au-delà du savoir, le connaître est un ressenti, un vécu, une expérience, un vivre avec qui nourrit tous les sens, qui forge l'intuition par-delà l'analyse. Au nom des requins, de François Sarano. Le chant de l'extinction.
Au nom de tous nos colocataires sauvages, les petits, les encombrants, ceux qu'on ne connaît pas, qu'on a mis dans un gros sac, distant de nous, et qu'on a appelé nature. Eh bien, cette nature, il est urgent de l'écouter et de comprendre que nous sommes nous-mêmes dans le sac.
Une série documentaire de Jeanne-Marie Desnos, réalisée par Charlie Marcellet. Deuxième épisode, Interférence. Trafic maritime qui double tous les 10 ans. Prospection sismique. Pour la recherche pétrolière. Écosondeur de pêche. Implantation d'éoliennes. Sonar militaire. Dans l'eau, le son se propage plus vite, plus loin et rencontre peu d'obstacles.
La pollution sonore sous les océans, ça va impacter de nombreuses espèces.
Charlotte Curé, bioacousticienne au CEREMA.
Les mammifères marins, les poissons, les céphalopodes... les crustacés, on a des effets d'ordre physiologique. Ça va être du stress. Les mammifères ont des oreilles, comme nous. Si le son est trop fort, ça peut casser le tympan. Et puis, chez les invertébrés, il y a quand même des espèces qui vont être sensibles aux vibrations, qui vont pouvoir avoir des dégâts physiques aussi, causés par du bruit trop fort. Et puis, on va avoir des effets... comportementaux, où là, il va y avoir des réactions d'évitement, des séparations de groupes, des interruptions du comportement alimentaire, des difficultés à reconnaître certains animaux du groupe. Tous ces effets vont avoir des conséquences sur des fonctions très très importantes dans la vie de l'animal.
Juin 2024, port de Banyuls, à la frontière de l'Espagne. Autour de moi, des collines recouvertes de vignes plongent dans la Méditerranée. Face au restaurant touristique, voiliers côtoient bateaux de pêche et navires scientifiques. Je retrouve Lucia Diorio, éco-acousticienne à l'université de Perpignan.
Allez, c'est parti.
Elle s'active avec l'équipe de la réserve marine.
On va découvrir cette fois. La première avec le rocher Lagrange, c'est le Sphinx. La deuxième, c'est Capo-Estrey. Et nous, on rentre dans la baie de Poli.
Ce matin, pour étudier les conséquences de la pollution sonore sous-marine, on va déposer un hydrophone à plusieurs mètres de profondeur.
Il a été comptabilisé jusqu'à 200 bateaux en même temps au mouillage dans la baie.
On est dans la réserve naturelle de Cerber-Banyuls. C'est vraiment la côte rocheuse. Donc il y a plein de criques. Sous l'eau, c'est très varié. Donc il y a l'habitat rocheux, mais aussi on a l'habitat du coralligène. Donc c'est dans le coralligène, par exemple, qu'on peut retrouver ces gorgones. C'est un peu comme des arbres avec des éventails. La gorgone rouge est très connue en Méditerranée, il y a la jaune, il y a plein de poissons, il y a plein de crustacés. Et aussi, il y a des herbiers de Posidonie qui sont très importants aussi, on le sait, c'est une espèce aussi protégée.
Normalement, le bout n'est pas emmêlé. Là, du coup, on va immerger un hydrophone pour le laisser pendant 4 mois sous l'eau et pouvoir avoir une idée un peu acoustique de nos herbiers. Je peux t'aider du taquet après, Lucia.
Donc, il y a une partie de réserve intégrale, personne ne peut aller. Et après, il y a une réserve partielle où il y a des activités qui sont admises, mais réglementées. Et personnellement, je travaille avec la réserve depuis plusieurs années déjà, justement pour le suivi d'espèces de poissons. Et l'idée, c'est justement d'étudier comment ces activités touristiques, elles interagissent avec ces espèces et le comportement naturel de ces espèces.
En Méditerranée, c'est vraiment l'été, de mai à septembre-octobre, où il y a le plus de sons biologiques. Et c'est pile la période où il y a le plus d'activités humaines. Donc c'est un peu frustrant. Et on voit que là où il y a le plus de pression humaine, c'est là où on a le moins de diversité. Notamment quand il y a des bruits de bateaux, il y a moins de vocalises. Et en réserve intégrale, là où il y a beaucoup moins de perturbations, on en a toujours.
Cet enregistrement-là, c'est un enregistrement qui a été fait dans une réserve intégrale. Et on peut entendre plein de types de sons différents de poissons. C'est un herbier, un bel herbier, qui te donne ce paysage sonore où il y a surtout des phénomènes de masse, en fait. Il y a une quantité de sons. On a l'impression d'être dans une mare. Et on a aussi l'impression d'avoir des fantômes ou, je sais pas, une créature bizarre. C'est un petit poisson qu'on ne voit jamais, parce qu'il est toujours caché dans le sable et il sort que la nuit pour manger, qui s'appelle Ophidion. Et lui, il fait ce bruit, il est tout petit, mais il fait ce bruit. Impressionnant.
Pour comprendre l'impact du bruit des bateaux sur le comportement des poissons, Lucia Di Iorio étudie deux espèces emblématiques de Méditerranée, le mérou et le corbe.
Le mérou, c'est un gros poisson. C'est un prédateur. Hein. Il a des petites nageoires, il fait beaucoup de surplace et il a une grosse tête avec des grandes lèvres, une grande gueule avec des petites dents. Il est plutôt marron. Ce qui est sympa, pendant la période de reproduction, les mâles, ils changent aussi de couleur. Ils ont tout d'un coup des dessins très très beaux, comme des étoiles autour des yeux argentés. Le mérou, il émet plusieurs types de sons. Donc il y en a un, c'est boum 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 boum. C'est ces séquences de puces très graves. Ça, c'est des sons de reproduction. Et après, une espèce de grognement, le ouh. Et ça, on pense que c'est plutôt utilisé en compétition pour défendre les femelles, les nids. Le corbe, c'est très élégant, c'est argenté, vert, jaune. Ils ont des grandes nageoires pectorales et des grandes nageoires dorsales, une belle queue. Il bouge vite. C'est un chasseur aussi. Ce son de tambour qu'on entend là, un peu comme une mitraillette, ça, c'est le chant d'un corbe qui répète ce son pendant des heures. Les mâles de corbe, ils créent leur petit harem. Et donc, c'est à travers le chant qu'il veut créer son petit harem. Notamment dans les sites de reproduction, ce qu'on va entendre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un chorus. Vous n'êtes plus vraiment capable de distinguer chacun des sons. Polyphonie de tambour. Et chez les poissons, disons l'organe principal, c'est la vessie natatoire. C'est une poche d'air. C'est vraiment l'outil de flottaison. Mais il y a des muscles autour qui peuvent faire vibrer cette vessie natatoire. Ou on peut aussi taper dessus. On peut s'imaginer un petit ballon rempli d'air. Et si on tape dessus, ça va faire un son. Boum, 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 boum. Donc les poissons qui utilisent les sons pour se reproduire, ces muscles soniques, ils vont grandir et devenir plus puissants au moment où c'est vraiment décisif pour la reproduction. Et dans cet enregistrement-là, vous entendez le tambour, mais beaucoup moins parce que là, il y a un bateau. Il masque justement ce son biologique. Et on a aussi montré que quand, en plus de bateaux, il y a des plongeurs, que cet effet est amplifié. Il y a un cumul d'impact, en fait.
Globicéphale noir en mer d'Islande. C'est un cétacé.
pour étudier l'impact de bruit anthropique sur les mammifères marins, on va dans le milieu naturel trouver les animaux. Donc on met soit des hydrophones à l'eau pour essayer de les détecter d'un point de vue acoustique, et puis on a aussi des jumelles assez performantes où on essaye d'observer un souffle. Et de par la forme du souffle, on reconnaît l'espèce. On a des fois des animaux qui sont assez actifs, et donc il faut essayer d'anticiper où est-ce qu'ils vont respirer pour arriver à s'approcher suffisamment près pour pouvoir fixer la balise. Une fois qu'on a trouvé notre espèce, on déploie un petit zodiaque. La balise, elle est mise au bout d'une perche. On tend la perche pour coller la balise, donc c'est avec des ventouses, ça leur fait pas mal, c'est pas invasif. Donc nous, on s'éloigne, et puis au bout d'un moment, on va diffuser notre bruit anthropique dont on soupçonne une perturbation. Et puis, la balise va donc enregistrer le comportement de l'animal pendant l'exposition. Il y a des travaux qu'on a réalisés chez le cachalot. Dans les aires de la mer de Norvège, les mâles adultes viennent là-bas pour se nourrir avant de retourner dans les aires de reproduction. Et ces adultes mâles passent 80% de leur temps à se nourrir et 20% à se reposer. Donc c'est vraiment la période où ils font le plein d'énergie. Ils chassent le calmar et donc ils effectuent des plongées très profondes. Ça peut aller là jusqu'à 500, 600, 700 mètres de profondeur. Et puis ils remontent. Respirer 5 minutes et puis ils repartent pour des plongées qui durent environ 30-35 minutes. Et au cours de ces plongées, ils émettent des clics. Donc en permanence, des clics réguliers. Le principe de l'écolocalisation, c'est d'envoyer une onde sonore. Cette onde sonore va donc être transmise dans le milieu et puis elle va rencontrer un obstacle. Cette onde sonore va revenir en écho et l'animal, en analysant cet écho, va être capable d'être renseigné sur l'obstacle qu'il a en face, la distance, la forme, etc. On enregistre ce train de clics qui se met à s'accélérer pour finalement être tellement rapide que nous, à l'oreille, on n'entend plus qu'une sorte de bzzz. C'est le moment où il capture la proie. Donc c'est comme ça qu'on arrive, quand on récupère notre balise et qu'on a les enregistrements, à savoir quand est-ce qu'il est en train de se nourrir. Pendant ces moments-là, nous, à un moment donné, on intervient et on va diffuser un bruit dont on soupçonne peut-être que ça va perturber le comportement alimentaire du cachalot. Par exemple, dans le cas du sonar militaire, le comportement de chasse était réduit de moitié. L'animal interrompt cette fameuse plongée de chasse pour remonter de façon précoce à la surface. On a pu élaborer un inventaire des réactions comportementales de chaque espèce de cétacé lors de l'écoute de son orque prédatrice. L'impact est aussi fort quand ils écoutent un sonar que quand ils pensent qu'ils vont se faire manger par un prédateur.
Ça va ? Tu vois bien ? Si tu vas à 12-13 mètres, t'as des espèces de blocs positionnés qui ressemblent à du coralligène. Ah
bon ? Ah ouais ? Mais là, on est sur le côté de la vie.
Bien sûr, on a un bruit de bateau dans l'eau, mais on a aussi un bruit de bateau dans l'air. Et ce bruit peut aussi, bien sûr, impacter les espèces marines qui ont une vie un peu semi-aquatique, où il y a une phase où ils peuvent être aussi sur Terre.
Isabelle Charrier, directrice de recherche au CNRS.
Donc là, on est en train d'écouter une colonie d'otaries à fourrure en Namibie. Donc vous avez une mère là qui cherche son petit. On l'entend crier. Puis il y a le petit qui chevrotte un peu. Souvent, on assimile les cris des petits à des moutons. Ils ont une fourrure assez épaisse. Quand elles sortent de l'eau, c'est un peu hirsute. Voilà, vous imaginez comme un labrador qui sort de l'eau avec les poils tout hérissés. Et puis vous entendez dans le fond sonore d'autres petits qui crient. Vous avez des mâles aussi. On entend ces aboiements, une sorte de uf, 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 comme ça, sans arrêt. Qui sont là pendant les premières semaines de la période de reproduction. C'est une espèce où la mère va donner naissance à un unique petit qu'elle va allaiter pendant 10 à 11 mois. Et pendant ces 11 mois, la femelle doit de temps en temps partir en mer pour se nourrir et fabriquer du lait pour son jeune. Et donc à chacun de les retours, elle doit trouver son petit parmi des centaines de milliers d'otaries. Donc on a trouvé une signature justement individuelle très forte chez cette espèce. Et on a pu voir qu'ils se reconnaissent 2 à 6 heures après la naissance. Donc c'est une mise en place qui est ultra rapide. D'ailleurs, c'est la plus rapide jamais démontrée chez un mammifère. Même les humains ne sont pas capables de se reconnaître aussi rapidement. C'est une zone où chacun peut venir regarder les otaries. Il y a des gens qui vont pêcher. Et vous avez aussi de nombreux bateaux touristiques ou on va dire privés qui viennent voir aussi ces otaries. On a vu que même des fois, des niveaux assez faibles de bruit, les gênaient. Par exemple, une femelle, elle arrêtait d'allaiter son petit. Sur le long terme, le jeune a moins d'énergie, donc sa survie va être impactée. Ces bruits peuvent aussi générer des mouvements d'individus dans la colonie. Donc, vous avez des colonies qui sont très compactes. Donc, forcément, quand l'un bouge, il va embêter l'autre. Ça peut générer aussi des morsures, des blessures. Par exemple, il y avait une étude qui a été faite chez les morses en Alaska où un hélicoptère avait survolé comme ça une zone de repos des morses. Et le survol de cet hélicoptère a créé vraiment une ruée. Tous les animaux sont partis, ils se sont enfuis dans l'eau. Et ça a généré cette énorme bousculade qui a tué plusieurs dizaines, peut-être des centaines de petits morses, écrasés par les adultes.
Les oiseaux aussi sont tués par le bruit. En Afrique du Sud, par exemple, Isabelle Charrier a également observé le déclin brutal d'une colonie de manchots après la construction d'un port. Vacarme du trafic maritime, 80% de la colonie a disparu en 6 ans. Grace Reef, Géorgie, États-Unis.
La première fois justement que j'ai écouté des milieux côtiers, ce qui m'a frappé, c'est cette richesse. Par exemple, un oursin, quand il bouge ou quand il mange, il va faire craquer son squelette, il va faire bouger ses pics. Tout ça fait des bruits.
la crevée claqueuse ou la crevée pistolet, elle ferme très vite sa valve et elle crée une bulle qu'elle fait exploser ou imploser plutôt sous l'eau, qui va faire un bruit. Un bivalve qui se ferme rapidement comme une coquille Saint-Jacques, elle va émettre un bruit. À chaque fois que tu ouvres un enregistrement, tu découvres des nouveaux sons. À l'écouter aussi, tu as comme l'impression que tu es un peu en train d'espionner. D'espionner la vie des autres.
Phoque de Weddell, sous la banquise en Antarctique. Ultras sont rendus audibles pour l'oreille humaine.
Et après, t'as envie de préserver, en fait. C'est assez naturel.
Et on a, donc par le réchauffement climatique, une fonte des glaces aussi. Dans les années à venir, vont ouvrir de nouvelles routes maritimes qui vont donc encore étendre ces zones bruitées.
Alors dans les solutions imaginées, je pense qu'il faut quand même des zones où là, il ne faut rien, il ne faut aucune activité pour que les animaux puissent quand même s'en servir comme refuge, que vraiment ça soit un sanctuaire pour eux.
Et la nature a plein de ressources, donc il ne faut pas que désespérer. On peut aider à sensibiliser, ça oui. Surtout le son, ça parle.
À suivre.
La connaissance permet aussi d'agir derrière.
Sur Arte Radio.
Thank you.